People cocaine still sleeps with a magnum. People cocaine still sleeps with a magnum. There's a made face here. Through the wall. My car is a mess. The resupply. La majeure russe. Tous les jours. 14h05. Sur GTFM. Préparé. Cocaïne. People with cocaine still sleep with a magnum.
Bergerus 10-41, 41, opuscule sur l'histoire. Alors ça, c'est un essai de Kant. Kant, j'ai jamais trop aimé. Mais là, bon... On va voir, opuscule sur l'histoire un peu. Donc j'ai repris des vieilles notes que j'avais prises, que j'avais écrites sur Kant, à une époque où je m'étais intéressé un peu plus près. Donc je vous lis. De l'esthétique transcendantale, Kant professe que tout objet de la sensibilité doit se conformer à l'espace et au temps. Professe que tout objet de la sensibilité, pardon, de se conformer à l'espace et au temps. Intuitions pures qui sont notre manière nécessaire de percevoir la diversité du donné, qui sont la forme de notre sensibilité même. L'intuition. Qui sont la forme de notre sensibilité. Première section de l'espace, page 119. Alors, je ne sais plus quel bouquin c'est. Extérieurement, le temps ne peut être intuitionné, je cite Kant, extérieurement le temps ne peut être intuitionné, pas plus que l'espace ne peut l'être comme quelque chose qui est en nous. Que sont dès lors l'espace et le temps? Sont-ils des êtres réels? S'ils ne sont pas en nous, c'est deux entités. Sont-ils des êtres... selon mon point de vue, peut-être. Et alors là, j'avais écrit, j'ai enfin compris, ou plutôt je pense, enfin savoir pourquoi, connaître la raison. Le plan de masse, la quête transcendantale de sa voix, c'est seul et pour soi qu'on écrit. L'édition de poèmes est un reflet où l'ego dans lequel se mirer apporte des cadences. Suite des notes. Critique de la faculté de juger. Il faut donc en tout cas qu'il y ait un fondement de l'unité du suprasensible qui est à la base de la nature, avec ce que le concept de liberté contient dans le registre pratique, dont le concept, bien qu'il ne réussisse ni théoriquement ni pratiquement à en fournir une connaissance et qu'il ne possède pas, par conséquent, aucun domaine propre. Rend possible le passage de la manière de penser, selon les principes de l'un à la manière de penser, selon les principes de l'autre. Rend possible le passage de la manière de penser, selon les principes de l'un. Ouais, les points de vue en fait. L'acceptabilité, fondement de l'unité d'un monde suprasensible. Concept de liberté. Ouais, la liberté, c'est un peu ça aussi, oui. Et donc aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai trouvé ce livre, Opuscule sur l'histoire de Kant. Donc là, j'ai lu la préface et j'ai été assez... Wow. Opuscule sur l'histoire, Kant, préface. Donc, dans mes notes, j'avais noté aussi que Nietzsche était anti-Kant. Il le dit dans l'Antéchrist. Ce que je comprends, que Nietzsche soit pas d'accord avec Kant. Kant aborde la perfectibilité via la liberté humaine. Il place l'historicité au-delà de l'instinct, qui n'a à ses yeux que trop peu de valeur. Aux yeux de Kant, l'instinct, c'est zéro. On croirait qu'il écrit pour le contrôle avec un grand C, quoi. Tellement dans ce livre, Opuscule sur l'histoire. Pour Kant, la perte de l'innocence primitive, donc, moi j'entends ça comme le déniaisement, accomplit notre matière qui est d'être libre. Notre nature. La perte de l'innocence, donc, primitive, accomplit notre nature qui est d'être libre. Rousseau, lui, était complètement contre ça, en fait, contre le déniaisement, la perte de l'innocence primitive. Et lui, pour Kant, ça accomplit notre nature qui est d'être libre. Alors, oui, en un sens, être contre, c'est être contre nature. Mais bon, quand on se déniaise, on est libre de le faire avec la personne qu'on souhaite. Et après on est capable de faire le mal. Avant, c'est vrai, quand on a le pucelage, on ne l'est pas. Enfin, on l'est, mais innocemment, quoi, inconsciemment. La théorie de l'histoire de Kant se fonde sur la recherche de l'histoire idéale, c'est ça, dont l'objet n'est ni de prédire l'avenir, ni même d'expliquer le passé, mais de montrer que, au-delà du chaos apparent des affaires humaines, nous sommes fondés à espérer que l'histoire humaine a un sens. Voilà, c'est ça qu'il veut montrer. Donc, moi, je pense qu'à ses yeux, à Kant, l'histoire idéale se constitue, c'est ce que je comprends, c'est mon interprétation, de nulle non-historicité, en fait. Le truc de Nietzsche, aucune création, enfin, rien n'est envisageable. Pour lui, Kant, il y a un plan divin. Et il faut faire... ce qui t'arrive, c'est que ça doit t'arriver. Ça, bon, je suis d'accord. Mais après, il va au-delà, avec l'art, il percute pas trop. C'est difficile, parce que là, je commence mes lectures de Kant, je crois que je vais arrêter là, parce que je veux bien voir comment ça se présente. Donc, en réalité, à ses yeux, l'histoire idéale se constitue de nulle non-historicité. Sa conception est planifiée et ne se doit d'être soumise à aucune autre possibilité. Possibilité alternative. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'amalgame des jeux, quoi. Et pourtant, j'ai repris un livre que Deleuze avait écrit, La philosophie critique de Kant. Apparemment, il serait question de ça. Mais dans précisément Opuscule sur l'histoire, je vais vous relire un passage, c'est pas vraiment question de ça. La perfectibilité, pour Kant, à mes yeux toujours, se suggère dans une illusion de la liberté. Alors, je vais vous lire. Chez Kant, la catégorie centrale de la théorie de l'histoire est donc celle de la finalité. Et c'est pourquoi presque tous ses écrits qu'il lui a consacrés se réfèrent explicitement ou implicitement à l'idée d'un dessein de la nature. Un destin de la nature. Or, ce dessein ou cette ruse se manifeste de deux manières opposées. D'un côté, la nature a voulu que nous soyons libres, et pour cela, elle réduit au minimum la part de l'instinct en nous. Là, je le suis. afin que s'accomplisse notre destination morale. Ok ? Qui veut que l'homme soit traité comme fin et non pas seulement comme moyen ? D'un autre côté, utilisant nos passions et nos intérêts, la nature fait de nous des moyens pour atteindre ses fins. Je vous lis ce dernier passage. D'un autre côté, la nature, utilisant nos passions et nos intérêts, la nature fait de nous des moyens pour atteindre ses fins. Donc tout ce qui arrive à la société actuelle, moi je vous dis, donne tout le temps cet exemple du téléphone portable, en fait c'est voulu pour atteindre ses fins. Mais quelles sont ses fins ? Pour Kant, à l'inverse de moi, il y a une finalité, hein, une eschatologie, on pourrait dire, une fin. Et à mes yeux, c'est plutôt des cycles qui se répètent. On est au 18e siècle pour Kant. Fin 18e. Et donc plus loin, alors l'insociable sociabilité, ça c'est Rousseau, n'est pas de réaliser la liberté, mais simplement de la rendre possible, la liberté, en préparant l'homme à une maîtrise dans laquelle la raison seule doit avoir le pouvoir. Et donc là, j'ai annoté, la raison doit avoir le pouvoir. Et je me suis dit, en fait, c'est déjà un peu le cas. Mais c'est une raison formelle. Il n'y a qu'une raison formelle, qu'une logique. Ça, c'est qui s'attribue à chacun des états du monde. Et c'est ça qui est... Bon, il n'y a pas de point de vue différent, quoi. On est attaché à une formalité unique, quoi. Bon, malheureusement. Et quand je vous parlais que nous étions libres, d'un côté, la nature a voulu que nous soyons libres, mais c'est dans des illusions de liberté. La liberté, c'est ce que je vous disais dans les barges russes passées. On est libre, on a l'impression d'être libre, de pouvoir faire, on fait ce qu'on veut, mais d'une certaine manière, on est en prison. Je reprends cet exemple du téléphone portable. On est libre avec un téléphone portable, c'est une illusion, car ça nous enferme à ne pas aller voir plus loin. Et par rapport aux questions aussi, je disais, on se pose plus de questions. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà toutes les réponses dans le téléphone. Ça sert à rien de se poser des questions. Si on a une question, on prend le téléphone, on pianote et puis on a la réponse. Bon, pas toutes les réponses. Alors que si on laisse, c'est comme les Legos. On va laisser et puis la réponse va arriver à un moment où il faudra que la réponse arrive. C'est la même chose avec les livres d'occasion, tu vois. Je vais dans une autre librairie et je tombe sur ce bouquin. Au plus que l'histoire, je feuillette, je dis, ah ouais, ça pourrait coller avec ce que je suis en train de... dans mes réflexions, quoi. Avec Nietzsche, tout ça, ça pourrait être sympa. Puis je reviens, puis vous voyez, puis ça colle à peu près, quoi. Pour moi, en tout cas.
On vient d'écouter Brandenburg Concerto
par Jean-Sébastien Bach. Pourquoi j'ai mis ce morceau parce que c'est du baroque. Et d'après ce que je lis sur Kant, ça me paraît très comme un peu Aristote, quoi. Enfin, à mes yeux. Bon, c'est comme ça et c'est pas comme ça. C'est ce qui m'étonne. Enfin, ça m'étonne pas que Deleuze ait... Il n'était pas comme ça, je pense. Mecs, ils se sont intéressés à cette subtilité. Moi, j'aime pas Aristote, mais pour ne pas aimer Aristote, je me suis intéressé à lui. Donc, bon, mais au point d'en écrire un essai. Moi, après, c'était un prof, un philosophe, Deleuze. Bon. Chacun son truc. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Brandenburg Concerto, Bach. Je crois que c'est le numéro 3. Je sais plus. Dans le chapitre idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, chapitre 2, il y a un truc qui vient carrément avec ce que je disais avec les gens qui se sentent concernés et non par rapport. Les hommes pris individuellement et même des peuples entiers ne songent guère qu'en poursuivant leur fin particulière en conformité avec leurs désirs personnels et souvent au préjudice d'autrui, ils conspirent à leur insu au dessein de la nature. Dessein qu'eux-mêmes ignorent, mais dont ils travaillent comme s'ils suivaient ici un fil conducteur à favoriser la réalisation. Le connaîtrait-il d'ailleurs qu'il ne s'en soucierait guère ? Donc là, mais je trouve que... Voilà, c'est ce qu'on disait avec ceux qui se sentent concernés, mais ça, c'est ceux qui ne se sentent pas concernés. La description qu'il vient de donner Kant. Et ben, malgré tout, ils font le... C'est peut-être eux qui... Enfin... Ils font... ils sont dans le plan divin alternatif. Enfin, pas alternatif, justement, non, mais dans le plan... ils suivent leur... voilà. Ils font ce qu'il faut faire. Comme un troupeau, quoi. Tu vois. Tandis que les autres qui se posent des questions, ben eux, c'est un peu des hommes à abattre. Parce que ça vient foutre en l'air le plan divin, quoi. Ça vient foutre en l'air le dessin de la création. E-I-N. Dessin E-I-N. Et ensuite, il parle de fil conducteur. Fil conducteur de l'histoire. Que chacun, on fait, chacun de nous, chacun des humains, des êtres vivants même, font l'histoire, avec un grand H. Et là-dessus, selon Nietzsche, il y a les moments de non-historicité, les phénomènes inouïs. Les moments de création, qui sont prévus, bien sûr, dans ce plan divin. Mais il y a l'amalgame des jeux. Là, celui-là, bon, Nietzsche le conçoit, mais pas Kant. C'est ce que je comprends. Pas d'alternative, quoi. Après, en un sens, c'est vraiment le Lego City, quoi. Tu vois, c'est la ville parfaite. Après, mais il n'y a pas de danger, quoi. Il n'y a pas de... Pas de sauce piquante, quoi, tu vois. En plus, j'adore ça, la sauce piquante. Ah ouais, j'adore. Ça arrache. Donc là, nous allons voir s'il nous sera possible de trouver un fil conducteur pour une telle histoire. Puis, nous laisserons à la nature ce soin de produire l'homme capable de rédiger l'histoire selon ce principe. Donc en fait, il y a, malgré les directions que l'homme peut prendre, il faudra revenir au dessein de la nature, à ce qu'elle a prévu. Et à ça, il y a plein d'autres directions qui s'empruntent. Heureusement, chaque direction, autant d'êtres humains qu'il y a sur Terre, d'êtres vivants même. Nous découvrirons un fil conducteur qui ne sera pas seulement utile à l'explication du jeu embrouillé des affaires humaines ou à la prophétie politique des transformations civiles futures. Un fil conducteur. Entre parenthèses, profit qu'on a déjà tiré de l'histoire des hommes tout en ne la considérant que comme le résultat incohérent d'une liberté sans règles.
Mais ce fil conducteur ouvrira encore, ce qu'on ne peut raisonnablement espérer sans présupposer un plan de la nature. Attends, je vais le relire. Mais ce fil conducteur ouvrira encore, hein, ce qu'on ne peut raisonnablement espérer sans présupposer un plan de la nature. Une perspective consolante sur l'avenir où l'espèce humaine nous sera représentée dans une ère très lointaine, sous l'aspect qu'elle cherche de toutes ses forces à revêtir, s'élevant jusqu'à l'état où tous les germes que la nature a placés en elle pourront être pleinement développés et où sa destinée d'ici-bas sera pleinement remplie.
Bah ouais. C'est un peu la SF, ça.
Une telle justification de la nature, ou mieux de la providence, n'est pas un motif négligeable pour choisir un centre particulier de perspective sur le monde. Car à quoi bon chanter la magnificence de la sagesse et de la création, la magnificence et la sagesse de la création dans le domaine de la nature où la raison est, est absente? À quoi bon recommander cette contemplation si sur la vaste scène où agit la sagesse suprême, nous trouvons un terrain qui fournit une objection inéluctable et dont la vue nous oblige à détourner les yeux avec mauvaise humeur de ce spectacle. Et ce serait le terrain même qui représente le but final de tout le reste, l'histoire de l'espèce humaine. Car nous désespérions alors de jamais rencontrer ici un dessein achevé et raisonnable, et nous ne pourrions plus espérer cette rencontre que dans un autre monde.
Alors, c'est pas de la SF, ça ?
Kant. Croire que j'ai voulu, avec cette idée d'une histoire du monde, qui possède dans une certaine mesure un fil conducteur a priori de l'instinct, c'est a priori l'instinct, c'est ce que Deleuze décrit, bon, c'est ce que je retire de ça en tout cas, notamment, croire que j'ai voulu, avec cette idée d'une histoire du monde qui possède dans une certaine mesure un fil conducteur, a priori, évincer l'étude de l'histoire proprement dite, comprise de façon empirique, ce serait se méprendre sur mon intention. J'ai simplement été guidé par la pensée de ce qu'une tête philosophique, entre parenthèses, qui par ailleurs devrait être très avertie des problèmes historiques, pourrait encore tenter de faire en se plaçant à un autre point de vue. En outre, la minutie louable, sans doute, avec laquelle on rédige à présent l'histoire contemporaine, doit malgré tout faire naître naturellement en chacun une inquiétude. Celle de savoir comment nos descendants éloignés s'y prendront pour soulever le fardeau de l'histoire que nous pourrons leur laisser d'ici quelques siècles. Sans aucun doute, ils apprécieront celle des temps les plus reculés, dont les documents se seront perdus pour eux depuis longtemps. Ils apprécieront celle des temps les plus reculés dont les documents se seront perdus. C'est du seul point de vue de la contribution ou du préjudice que les peuples ou les régimes ont apporté sur le plan cosmopolitique. Prendre garde à cela et tenir compte aussi tant de l'ambition des chefs d'État que de celle de leurs serviteurs pour attirer leur attention sur le seul moyen qu'ils ont de transmettre leur glorieux souvenir à la postérité. Voilà encore un petit motif supplémentaire pour tenter une telle histoire philosophique.
Alors là, c'est carrément SF, quoi. Le mec, il se dit, déjà, il se disait au XVIIIe siècle, mais comment vont réagir, et ils iront piocher dans nos anciens auteurs, donc bah, là, on va piocher dans Kant. Mais Kant, lui, il allait piocher dans les... Je sais pas.
Avant, quoi. Trois siècles plus tôt, hein, au 15e, peut-être, j'en sais rien. Wow, c'est
wow. Donc là, on peut reprendre Nietzsche et son inversion. On voit que là, l'inversion est plus que nécessaire dans un monde où la raison, comme vous voyez tout à l'heure, la raison seule doit avoir le pouvoir. Ça, c'était Kant qui disait ça.
Kant écrivait aussi, si on admet la fonction de l'insociable sociabilité, n'est pas de réaliser la liberté, mais simplement de la rendre possible. Pour lui, en fait, il n'est pas du tout contre moi tout ce que je vous dis, quoi. Je ne suis pas contre non plus. Je peux pas être contre ça, parce que je vis avec. La ville, c'est le carrefour des existences, quoi. Tout se produit dans les villes. Enfin, tout, j'exagère. Hein, les rencontres et tout ce qui en ressort. C'est pas dans la nature. Enfin, c'est différent. Je vis pas dans la nature, mais bon. Nous venons d'écouter To Hold, Too Hot to Hold, Trop chaud pour attraper, de Big Hella, du Funk. Parce qu'en fait, là, je vois que en fait, je me suis un peu planté. Donc, moi, c'est trop chaud, en fait, pour que je puisse faire une barge russe là-dessus. Mais je vais vous dire ce que Deleuze a écrit. Après, est-ce que Deleuze, est-ce que la préface que j'ai lue, lequel a raison, lequel a tort? Bon, alors là, en fait, il est écrit, j'avais noté, l'imagination apprend donc que c'est la raison qui la pousse jusqu'à la limite de son pouvoir. L'imagination apprend donc que c'est la raison qui pousse jusqu'à la limite de son pouvoir. Que la raison est très active dans l'imagination. Ouais, après... Il y a des choses qu'on imagine qui sont un peu fantastiques, ça peut arriver. La forçant à avouer que toute sa puissance n'est rien par rapport à une idée. Oui. Oui, ça dépend. Après, bon, on classe, quoi. Bon, le sublime, donc c'est ce qui pourrait être appelé le phénomène inouï, quoi. Le sublime, le satori aussi. Le sublime nous met donc en présence d'un rapport subjectif direct entre l'imagination et la raison. Donc la non-historicité. Pour un point non historique selon Nietzsche. Mais plutôt qu'un accord, ce rapport est en premier lieu un désaccord. Une contradiction vécue entre l'exigence de la raison et la puissance de l'imagination. Et le sentiment du sublime être une peine plutôt qu'un plaisir. Ouais, donc là, voilà. Maintenant, en fait, je me dis, j'ai pas tout, c'est assez bien compris la préface. Lorsque l'imagination est mise en présence de sa limite par quelque chose qui la dépasse de toutes parts, elle dépasse elle-même sa propre limite. Il est vrai de manière négative, en se représentant l'inaccessibilité de l'idée rationnelle et en faisant de cette inaccessibilité même quelque chose de présent dans la nature sensible. Je cite maintenant Kant, l'imagination qui, hors du sensible, ne trouve rien où se tenir, se sent pourtant illimitée grâce à la disparition de ses bornes. Et cette abstraction est une présentation de l'infini qui, pour cette raison, ne peut être que négative, mais qui pourtant élargit l'âme. Donc en fait, si on écoute bien, Kant, lui, il lirait les notices de l'ego, quoi. Il ne créerait pas de forcément facilement, aussi facilement que ça de lui-même. Alors j'ai trouvé la réponse à la question que je posais tout à l'heure, que Kant se posait. Que sont dès lors l'espace et le temps? Sont-ils des êtres réels? Et là, selon Gilles Deleuze, page 27 d'édition PUF, à la différence de l'espace et du temps, les catégories. Attends, plus. Ouais. Les phénomènes ne sont pas soumis à la synthèse de l'imagination. Ils sont soumis par cette synthèse à l'entendement législateur. À la différence de l'espace et du temps, les catégories comme concept de l'entendement font donc l'objet d'une déduction transcendantale qui pose et résout le problème particulier d'une soumission des phénomènes. Donc là, l'espace et le temps exposent les phénomènes, c'est là où s'exposent les phénomènes. Donc c'est pas des, c'est, ce ne sont pas des êtres réels. Bon, ça dépend de ce qu'on appelle un être réel, hein, c'est toujours pareil, des questions de point de vue. C'est ranger les phénomènes par catégorie, en fait. Un petit peu, c'est ce que j'avais à noter. Les phénomènes sont nécessairement soumis aux catégories, au point que, par les catégories, nous sommes les vrais législateurs de la nature. Pourquoi les phénomènes sont-ils soumis à l'espace et au temps? Les phénomènes sont ce qui apparaît et apparaître, c'est être immédiatement dans l'espace et dans le temps. Comme c'est uniquement au moyen de ces pures formes de la sensibilité qu'une chose peut nous apparaître, c'est-à-dire devenir un objet d'intuition empirique, l'espace et le temps sont de pures intuitions qui contiennent a priori la condition est de la possibilité des objets comme phénomènes. C'est pourquoi l'espace et le temps font l'objet d'une exposition, non pas d'une déduction. De la personne vers l'individu lambda de série s'effectue par une réduction de l'attention vers elle-même. La personne va être en mesure de réfléchir afin de relier son instinct ou ses choix à son esthétique de vie. Il en va de cette incompréhension et ou de cet oubli, de ce fait, de souffrance produite sur l'individu lambda, qui fut une personne, qui fut en capacité de réfléchir.
Marion m'a dit Johnny, fais d'un coup couper les cheveux, je lui ai dit mamie, je n'en ai déjà presque plus. Avec lui, elle qui a 20 ans de plus, on se dit qu'avec un de moins, ça fait toujours un plus. Oh yeah! On en tout cas, on fait de la radio. Depuis que le surf me fait très mal au dos, on chante et on anime des chroniques qu'on joue pour comprendre toute la musique autour de nous. La séquence du spectacle pour l'auditeur, faut mettre ses fréquences par ordinateur. Plus besoin de se suicider, on est déjà tous morts à en crever. Oh yeah, tout devrait changer tout le temps, nous serait bien plus amusant. On avance à l'envers, on recule en marche arrière. J'étais fait mais loin devant, la vague russe avance au vent. Même si on se pose des questions, le monde tourne tout.